collaboration avec Hydro-Québec, fête ses 40 ans. De Élie Sapie à Philippe Braque, en passant par Marjo ou Safia Nolin, tu trouveras ton bonheur dans la programmation.
Chante-moi la chanson.
Viens profiter du festival et célébrer avec nous 40 ans de fête avec des surprises et des concerts en pleine nature Loto-Québec. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi. Billets et passeports sur chantadoussac.com.
Bonsoir à tous et bienvenue à cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio ce soir sur le territoire non cédé du Nyon-Wendat, aussi appelé Québec, avec Mathilde Harvey-Morin. Bonsoir Mathilde.
Salut Christelle.
Ça va?
Oui, super excitée, toi?
Ben oui, on a vraiment une belle émission. Toi, tu reviens reposer de tes vacances en Gaspésie.
Ah oui, pour j'ai encore le son des vagues dans mon crâne, là.
Tu nous fais envie. Est-ce que tu aurais envie de nous résumer le menu de l'émission de ce soir, s'il te plaît?
Oui, alors ce soir, on a un peu moins de sujets que d'habitude, mais on met beaucoup d'intensité et de temps sur ces sujets. On va commencer avec une chronique de notre chroniqueur Aldéric Laï, qui nous a choisi de présenter les floraisons des mauvaises semences, les cendres des épouses de la cède, présentées à la galerie Chiqueur, Contemporain Québec, qui est une exposition en fait de Annie Baillargeon, qui dans le fond a commencé depuis le 29 mars et va être présente jusqu'au 28 avril 2024.
Ouais.
Et en continuant en deuxième partie, Christelle, tu nous reçois en entrevue le journaliste Stéphane Baillargeon, journaliste au Devoir, au sujet des deux articles, qui vient nous parler en fait des deux articles parus le 18 et le 19 avril dernier sur le chantier de l'espace Riopelle au MNBAC et la notion d'artiste officiel.
Ouais, ces deux articles qui ont vraiment piqué mon attention puis qui ont mis en mots ce que moi, plusieurs des comparses du milieu de l'art actuel et des travailleurs culturels pensons ou enfin avons comme réflexion critique sur ce grand chantier-là et ce que ça veut dire la posture que prend la Fondation Riopelle et le Musée national des Beaux-Arts du Québec. Donc, j'ai très, très hâte d'entendre parler de son cheminement, de réflexion et puis qui nous exemplifie les notions qu'il met de l'avant. En tout cas, je pense que ça va être une très belle discussion avec le journaliste Stéphane Baillargeon. Pour la sélection audio de ce soir, Simon Roy, notre fidèle mélomane ici à CKRL, nous propose de découvrir Bermuda. C'est une artiste qui est née aux Bermudes, qui a été élevée en Irlande, mais qui est maintenant sherbrookoise. Elle incarne les mères milléniales, donc une femme qui fait de la musique inspirée par sa posture de mère postpartum, engagée, militante. Sa pop est vraiment funky, puis fait bouger les foules, mais elle touche aussi, puis connecte profondément au niveau des propos, puis de la vibe qu'elle souhaite transmettre. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette suggestion de Simon. La première piste qu'on écoute s'appelle « Prête » et on revient au retour de la pause avec notre chroniqueur Aldéric.
Mmh. le feu des vrais. Oublie la mer, oublie la cage. Moi, c'est vers le large que je nage. Faut être nu pour être fort. Le courage, c'est facile vu du haut d'un port. Perché, perché, t'as pas de mérite. Lâche tout pis glisse comme une truite pas cuite. Le vulnérable, c'est le nouveau sport. C'est hot de devoir avouer tes torts. Embarque dans vague des portes de cœur. Tu m'en remercieras, regarde-moi bien à star. De la fougue en blanc, de la force en veux-tu. Je dégadine, magadine, je vais te faire hot dog cru. Crée-moi bien ou crée-moi pas. L'avenir appartient au tout nu. Voilà, on me dit de me taire, de cacher ma manière, de tenir à mon corps. Moi, je veux l'effort du gars. J'aurais envie de te dire toutes les choses que j'ai sur comme épaule. Nage avec moi. Qu'est-ce que tu dis, mais tu dis quoi? J'ai dit qu'est-ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu dis là? Pour être certaine de ne pas mordre à l'hameçon, mais que tu tiennes bien droit ou bien mou, va falloir que t'apprennes.
Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio avec Aléric Léhi. Bonsoir Aléric.
Bonsoir Christelle, bonsoir Mathilde.
Comment vas-tu?
Ça va super bien, je suis très excitée d'être avec vous en studio aujourd'hui.
Mais nous aussi, on est heureuse de te retrouver.
Génial.
Tu viens nous parler d'une expo d'Annie Baillargeon, qui est une artiste qui a une longue carrière ici à Québec, une présence importante. Elle expose chez Chigar, art contemporain. Elle est représentée par cette galerie-là. Et tu es allée voir sa dernière installation.
Oui, exactement. Donc, j'ai profité de ce dimanche pluvieux pour aller marcher sur Saint-Vallier, puis faire, je pense, ma première vraie visite de Chigar Art Contemporain Québec. J'ai vraiment pas été déçu. Donc, je connaissais le nom de Annie Baillargeon, je connaissais pas vraiment son art, je connaissais pas vraiment son univers. Mais donc, j'ai pu être plongé dans son univers, puis aussi, j'étais très intéressé par sa pluridisciplinarité.
Ouais.
Donc, le mélange qu'elle fait de certaines disciplines à travers plusieurs médiums dans une œuvre, puis notamment dans cette exposition, donc avec un titre très long.
Oui, mais, vas-y, donc, fais-nous le plaisir de le lire au complet.
Voilà, les floraisons des mauvaises semences, les cendres des épouses de la 16, puis l'exposition inclut également des œuvres de la série Posture des soins, qui a été réalisée en 2022 dans le cadre de Yandawa, portage entre Wendake et Québec.
Ouais.
Donc, je vous résume, j'arrive dans l'espace, puis... principalement là, des œuvres d'art visuel, donc des cadres qui sont au mur, mais également des installations, le tout dans un esprit très cérémonial, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, Annie Baillargeon, si je vous fais un petit topo rapidement sur l'artiste, donc née en 1978 à Victoriaville, une artiste qui vit dans la ville de Québec, qui pratique dans la ville de Québec, et comme tu disais, représentée par Chigar. Et donc, voilà, c'est une artiste pluridisciplinaire, puis c'est bien exprimé dans les œuvres que j'ai pu voir, justement, là, pas plus tard que dimanche. Donc, la plupart des œuvres, à part les installations, donc on a des ballets de sorcières, donc vraiment là, tout droit sorti d'une forêt, on a des morceaux de bois, on a une espèce d'espace cérémonial là, qui prend beaucoup d'espace dans l'espace d'exposition. Puis la partie, donc, appelons-la de la 16, puis un peu surélevée, la partie également là, des postures, c'est un peu des variations sur un même thème. Donc, je vais vous parler plus tard un peu des thèmes explorés là, dans la pratique d'Annie Baillargeon. Mais donc, rapidement, là, ces œuvres-là, ce que ça exprime, en fait, je vais vous parler d'abord du médium, parce que c'est un médium qui est intéressant. Donc, on lit photographie, donc impression, jet d'encre, et aquarelle, donc cette pluridisciplinarité.
Ouais.
Donc, Annie Baillargeon, c'est une artiste de performance.
Ouais.
Dans ses médiums, donc, elle performe, elle figure, elle est en fait le personnage principal de ses œuvres, puis des fois, elle se démultiplie aussi. Donc, on voit des corps de femmes, puis, en l'occurrence, c'est souvent Annie qui est là plusieurs fois, donc fait une performance, photographie certaines choses, manipule graphiquement par ordinateur, puis dans les œuvres que j'ai pu voir, applique une technique d'aquarelle. Puis ça,
sur l'impression.
Sur l'impression, puis je vous avouerai que ça fait un effet assez impressionnant. Puis donc, manipulation graphique, on a des fonds noirs, donc les personnages ressortent vraiment beaucoup.
Tout à fait. Puis là, les couleurs de son aquarelle sont très pastelles, légères.
Oui, exact.
Donc, elles ressortent d'autant plus. Quand je suis passée voir l'expo au vernissage, c'était... Annie était présente, puis elle exprimait que... Elle a pas un background en peinture, là. Donc, pour elle, l'expression par la peinture, c'est quand même très audacieux. Ça la sort de sa zone de confort. Et l'impression au jet d'encre, c'est très dispendieux. Donc, une impression photo, c'est coûteux, beaucoup plus coûteux que le serait une toile. Et donc, quand tu viens peindre directement, il y a quand même un enjeu de pas faire de bévue, de pas rater, de suivre son instinct, mais en même temps, pas gâcher non plus les ressources investies. Donc, j'avais pas saisi toute la dimension de risque ou en fait, de risque matériel avec lequel elle se mettait un petit peu en danger en avançant dans ces nouvelles disciplines-là.
Oui, absolument. Puis moi, ce qui m'intéressait notamment là, dans la deuxième série là, qui est sur le petit promontoire, donc la posture des soins qui met en image, en fait, c'est des corps de femmes, mais également des amas un peu de fil, puis une espèce de fil constant, presque comme un amas, une espèce de brouhaha de fil. Puis c'est on voit des parties de corps de femmes, puis... c'est tout sur le thème là, de la sorcière, en fait, le personnage de la sorcière, la femme qui est un peu, une femme qui sort de l'ordinaire, mais qui est un peu, donc, exclue ou quoi que ce soit. Puis, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y avait certains aspects de la photographie, en fait, je me demandais si c'était un ajout ou c'était une manipulation graphique ou si c'était la photographie. Donc,
On voit plus, hein, le jeu. Est-ce que les rubans étaient dans la performance? Est-ce que les scintillements, le crépitement du feu a été ajouté par touche d'aquarelle ou est-ce qu'il était déjà dans la photo? Mm-hmm. Est-ce qu'on a joué avec les couleurs pour les faire ressortir? Oui, c'est bien maîtrisé, hein?
Oui, absolument. Puis... Dans les floraisons des mauvaises semences, les cendres des épouses de la 16, ben, la 16, en fait, là, c'est cette discipline qui est souvent religieuse, qui tend à un peu refuser son corps dans le réel pour aspirer à une autre dimension, donc spirituelle. Donc, mais c'est beaucoup, je pense, dans la culture, c'est lié au sentiment de la honte. Puis, cette dimension-là est beaucoup exploitée dans l'exposition. On voit, il y a un texte qui sort, donc un extrait de, je pense, c'est la Bible. Donc
oui, dans
des Corinthiens.
Oui.
Puis là, c'est comment est-ce que la femme doit s'habiller. Puis, je pense que ça peut en choquer certains, mais donc, c'est des textes qui sont assez anciens. Mais donc, on voit aussi une espèce de carte, qui vient, en fait, du passé d'Annie Baillargeon, qui est son report card, là, c'est en anglais, c'est une espèce de bulletin qui date d'il y a peut-être 30 ans. Puis je pense qu'il y a toute cette dimension-là autour de comment est-ce qu'on est éduqué, comment est-ce que le corps de la femme est exploité, comment on parle de la femme, puis ça, c'est très présent. Puis c'est dans la série là, de La 16, c'est beaucoup ces corps de femmes qui sont... en fait, puis c'est assez... ça peut être révoltant, si on veut, parce que c'est des corps de femmes qui sont un peu distorsionnés, qui peuvent être par terre comme si elles étaient mortes, mais avec l'immense contraste de rajouter une floraison à ouais. l'aquarelle avec des couleurs pastel, des rubans, des fleurs qui sont en éclosion. Donc, c'est une tension, là, puis j'avais entendu ça dans une entrevue avec Annie, donc entre le doux et le hardcore. Puis c'est cette tension-là est très bien exprimée dans ces œuvres-là, clairement. Là.
Puis on le voit aussi dans l'installation, l'aspect plus installatif, les objets qu'elle a placés au sol. Le bois, par exemple, donc c'est toutes des branches d'arbres qui ont été récupérées, qui ont été disposées en cercle, mais elles sont toutes peintes noires.
Oui.
Donc, tu sais, elle travaille vraiment à sortir du naturel puis à nous amener dans une autre dimension. Vraiment une dimension magique, soignée, avec des rubans, des petites chandelles.
Oui, oui, mais ça donne un résultat qui est assez intéressant. Donc, des thèmes là, qui peuvent être obscurs, mais exploités avec une certaine légèreté. Puis vraiment, après, un esthétisme qui est très léché, là, qui est très travaillé. Donc, voilà, une belle découverte, honnêtement, pour moi. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à aller voir son site,
ouais.
puis voir des œuvres là, de ses, en fait, différentes phases de sa vie.
Ouais.
Puis tu mentionnais là, que c'était une personne qui avait beaucoup de succès, bien, qui commençait à avoir beaucoup de succès. Donc, c'est une personne qui, ça fait 20 ans là, qu'elle fait de l'art. et plus. Donc, je vous invite à aller voir ces œuvres qui sont très différentes dans la photographie, performance, donc répétition souvent des corps. Très intéressant là, à ouais. découvrir. Hein.
J'ai une question pour toi, Aldéric. Est-ce que tu t'es amusé à circuler dans l'espace, puis même à passer à l'intérieur du cercle de rituel, ou t'es resté à l'extérieur?
Ah, j'ai pas osé traverser. Je veux dire, je me suis gardé oui. une petite gêne, mais c'est drôle parce que pour aller accéder là, donc à l'espace là qui donne sur la rue Saint-Vallier, oui. donc il y a certaines des œuvres en fait où il fallait se faufiler entre l'espace installatif et le mur pour aller voir ne serait-ce que vraiment une bonne vue de oui. l'œuvre. Toi, est-ce que tu es allé voir l'exposition?
Oui, puis j'ai eu le même réflexe que toi. J'ai considéré ou interprété que le cercle rituelique qu'elle avait installé près de la fenêtre était interdit de passage. Mmh. Et quand j'ai vu un des artistes présents au vernissage se précipiter à se rendre au plein milieu du cercle, même à effectuer une danse, à rigoler de cette transgression-là, puis à pas du tout s'en préoccuper, je me suis dit, ah, waouh, vraiment, les regardeurs, on a tout notre bagage de subjectivité, puis on se crée des lois de comportement puis d'appréciation d'œuvre, tu sais, qui nous appartiennent au fond, en fait.
Exact. Puis écoute, j'ai eu le même sentiment, en fait, là, en observant là, l'espèce de bulletin, là.
Ouais.
Puis je l'ai touché, mais je me suis dit, ah, je vais pas l'ouvrir. Mais, je veux dire, on a toujours cette... Je veux dire, mais après tout, on place un objet, je pense que c'est pour le consulter, c'est pour le toucher, pour en apprendre un peu plus.
Tout à fait.
Mais ouais, l'aspect...
Je me suis permis de construire un petit peu plus de contenu autour de ta proposition de chronique. Donc, je vais poursuivre pendant quelques minutes, mais je t'invite à réagir. J'ai écrit à Annie aujourd'hui en lui disant, écoute, on a un chroniqueur qui vient parler de ton expo. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse la lecture du texte qu'elle a placé au centre du cercle rituelique là, okay, dont on okay. parle? Parce qu'il y a un livre ouvert, t'as probablement remarqué. Par contre, si, comme moi, t'as pas osé entrer à l'intérieur, t'as pas pu savoir c'est de ça. Quel texte il s'agit. Alors, Annie a accepté, bien sûr, de collaborer à ce jeu-là, parce que pour elle, le texte, le fait qu'il soit ouvert, était une invitation à le lire. Donc, pour ceux qui, comme toi et comme moi, ne sommes pas donner la permission d'aller le lire, mais j'aimerais le partager. Il s'agit d'un extrait d'un livre qui s'intitule « Rêver l'obscur, femmes, magie et politique », qui est de Starhawk, une auteure extrêmement réputée et connue dans le milieu écoféministe. C'est une Américaine. Elle a fait beaucoup de réappropriation de traditions, parfois autochtones, mais surtout païennes, pour redonner, en fait, à nos sociétés postmodernes un ancrage ou un lien, en fait, avec des façons de faire pour la célébration puis tous les rites, en fait, de la vie.
Okay.
Et c'est la page 139 que Annie a ouvert au centre de son cercle de rituel. Et on peut y lire « La terre, l'eau, le feu, l'air. Fait retour, 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 retour. » Dans un rituel, une cérémonie. Liquéfiez-vous, dit une voix, sentez vos genoux mollir et vos corps s'alourdir. Laissez-vous couler dans la terre, touchez la terre avec vos mains, vos bras, votre visage. Restez là, et tandis que vous restez, vous commencez à vous dissoudre. Votre peau, vos os, vos yeux, votre propre souffle s'en vont. Vous êtes sans forme, reposant dans la terre, bercé sur la sombre poitrine de la mer. Tout ce que vous savez, tout ce que vous avez été, tous les ennuis que vous portez dans votre esprit, les choses qui vous semblaient si importantes, tout est parti maintenant. Laissez-les partir. Vous n'êtes rien, un espace dans l'obscur. Mais maintenant, dans ce rien, dans cet espace, vous commencez à sentir une étincelle. Quelque chose vous pousse vers le haut, une chaleur, un pouvoir, le pouvoir de la terre. Quelque chose coule à travers vous, à nouveau. Vous entendez un battement, un rythme, c'est le battement de votre cœur. Vous inspirez, doucement, doucement, vous commencez à vous lever. Donc, il s'agit d'un protocole.
Oui, c'est assez intéressant, parce que je veux dire, les œuvres proposées, ça tourne beaucoup autour du mystique, du rituel, tout cela. Puis, un parallèle que je trouve intéressant, c'est que je pense que l'artiste parle un peu d'elle dans ses œuvres, mais fait aussi une sorte d'autofiction, parle de l'expérience d'autres personnes dans ses œuvres. Puis, quoi de plus intéressant que créer un rituel, s'initier à des nouvelles activités, devenir le créateur, puis partager un peu cette espèce de folie, l'espèce de construction là. Je trouve ça intéressant.
Oui, puis pour avoir vu Annie en performance, on la voit souvent interagir avec le sol, la terre, les fleurs, poser des gestes très intimes, des mouvements de vraiment toucher le sol, s'y alourdir, s'y laisser aller, puis finalement se relever. Et là, on voit dans le texte qu'elle nous partage, en fait, de Star A, qu'elle puise ses références, ses protocoles de performance directement dans des textes que d'autres femmes sorcières ont travaillé à recenser ou à faire l'archéologie de ces rituels anciens-là pour que d'autres personnes aujourd'hui s'en saisissent puis les apportent dans des nouveaux lieux. On n'aurait pas pu imaginer, j'imagine que Starhawk n'aurait pas pu imaginer que quelqu'un utilise cette force-là de rituel en galerie. C'est quand même un espace où on ne penserait pas, en fait, performer du rituel.
OK, mais oui, clairement. Puis donc, j'invite les gens qui vont aller voir l'exposition là, dans les jours qui viennent, là, jusqu'à dimanche, de midi à 17h là, chez Chiguère, d'aller ouvrir le livre, regarder, toucher... Pas trop les œuvres sur les murs, là. Je veux dire,
bien sûr que non.
Mais donc, de profiter de l'espace performatif, installatif.
Ouais, d'oser plus que nous, on l'a fait, s'approcher des documents qu'elle a laissés pour les regardeurs. On va poursuivre, en fait, cette chronique avec un petit extrait que j'ai trouvé sur le site de Chiguère Art Contemporain. D'ailleurs, Chiguère a fait une refonte complète de leur site suite au passage entre Galerie 3 et Chiguère. Le nouveau site est super coloré, super bien documenté. Tous les artistes ont droit à une page complète de présentation avec des hyperliens vers des portfolios, les œuvres qui sont en vente en galerie et des œuvres qui sont offertes par Chiguère, des collections passées ou des corpus passés des artistes sont affichés avec les prix, donc c'est très interactif. Très informatif aussi.
Oui, je suis d'accord. Là, l'interface est vraiment très facile à utiliser. On a beaucoup d'informations. Puis, c'est vrai, c'est un beau résultat, honnêtement.
Ouais. Moi, j'ai été très impressionnée. Donc, j'étais heureuse, en fait, de naviguer sur ce portail-là. Et j'ai trouvé, sur la page d'Annie Baillargeon, un petit extrait d'une série documentaire qui a été produite par le canal Savoir sur l'art actuel à Québec. Il y a toute une série de nos artistes préférés, en fait, le portrait a été tiré par le canal Savoir. On a des entrevues, des visites d'ateliers. La série est vraiment intéressante. Je vous fais écouter un petit extrait.
Artiste pluridisciplinaire, l'œuvre d'Annie Baillargeon intègre la peinture, la vidéo, la photographie et la performance. C'est en tant que cofondatrice du collectif Les Fermières Obsédées qu'elle a amorcé sa démarche dans cette discipline. L'artiste de la performance n'est pas en représentation. Il ne joue pas de rôle. Il n'interprète pas de texte comme au théâtre. Il pratique un art de l'immédiat, de l'éphémère qui ne laisse aucune trace et qui se fait en présence du public, souvent avec lui. C'est un art éminemment orienté sur l'action, souvent politique ou sociale. Même dans ses œuvres picturales, comme ses photomontages, Annie fait appel à des séances de pose, des shootings photos, dont elle est elle-même le modèle. La performeuse n'est jamais très loin.
Donc, j'espère que ça vous a donné envie d'aller écouter cette super série du canal Savoir. C'est tout disponible en ligne gratuitement. Il n'y a pas trop de pubs sur la diffusion du canal Savoir en plus, donc on peut se les enfiler. Là, c'est une vingtaine de minutes. Puis des portraits d'artistes. Là, il y a un portrait de Paris Martin qui est magnifique. Donc, ça sera toujours opportun pour nous d'aller reconsulter ces archives-là. Je voulais mentionner en dernier point là, d'information que Annie est présentement en résidence au Centre Phi à Montréal, où elle travaille sur un projet qui s'intitule Cosmogonie des mutations. On peut suivre son compte Instagram où elle diffuse tranquillement le processus où elle va intégrer de l'AI, donc de l'imagerie virtuelle. Et puis de la captation, probablement là, vidéo, mais aussi en 3D là, de son travail. Donc, à suivre. Le Centre Phi est de plus en plus un acteur intéressant pour les performeurs. Donc, Annie me disait que c'était ouvert, que c'est pas nécessaire d'avoir son expérience puis sa grande reconnaissance pour avoir accès à ce genre de travail-là où on peut être accompagné dans le nouveau média puis dans l'art numérique. Donc, c'est vraiment pertinent de suivre le compte Instagram d'Annie Baillargeon, d'aller voir la cosmogonie des mutations, de s'intéresser à ce qui se passe dans les centres en art numérique, parce que, justement, comme on l'a vu avec toi, Aldéric, la perf peut avoir des avenues sur toutes les autres disciplines de l'art visuel, puis demeurer pertinente.
Absolument.
Bon, on termine là-dessus. On va aller en pause musicale avec une prochaine piste de Bermuda. Au retour, on va écouter des pubs publicitaires. Après les pubs publicitaires, il y aura une entrevue avec le journaliste Stéphane Baillargeon.
OK. Héritière de force, née pour que ça se casse en crée. Dans ses choux claques et les portes, peu importe, elle carbure à la dure. On se maudise, le code figure en or. Signature, l'interdiction, sa pure motivation. Les insultes et crachent à la meilleure combustion. Les refus, un escabeau vers le haut. Les plafonds de verre, les bois comme un verre d'eau. Elle fonce, continue d'y aller. Elle monte, elle veut tout maîtriser. Elle avance, elle veut tout gagner. Elle va s'arrendre, c'est qu'elle veut aller. Elle fonce, continue d'y aller. Place. Imagine le potentiel si était plus rapace. Elle dévore son quotidien à coups de défi. Éduquer les remords, ça vaut rien. C'est juste des défis, c'est des underdogs. Elle n'en a rien à cirer. Elle est fixe du regard pour les intimider. Elle fonce, continue d'y aller.
L'événement radiophonique incontournable de l'année, le Radioton de CKRL. Pour cette occasion spéciale, la station se transformera en véritable cabaret, mettant en lumière des artistes de Québec. Au programme, spectacles, performances, discussions et tables rondes. Le Radioton vous est présenté grâce aux partenaires majeurs suivants. La boîte à pain, la Corrigane, le bal du lézard, Audiolight, Alimentex, Atémi, les cinémas Le Clap, Sainte-Foy et Loretteville et Hôtel Château-Laurier. Du 26 au 28 avril, ne manquez pas ça.
Palavra pede poesia, nunca pede poesia.
Cet hiver, les femmes sont à l'honneur au Palais Montcalm. Véritable femme orchestre, la chanteuse et guitariste brésilienne Badji Assad.
Da sabedoria do invisível.
l'ensemble Cordam et la chanteuse Coralie Gann offrent un hommage aux grandes poétesses à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. La flamboyante Julie Aubé, connue pour sa participation au sein des Hey Babies, présente ses compositions country rock.
J'aime le beau temps, j'aime le printemps, quand ça tombe à chaud.
L'américaine Kaki King réinvente la guitare à sa manière et s'impose par son approche singulière et son style percussif. Détails au palaismontcalm.ca.
Dans le cadre du 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL 89.1 est fier de collaborer à la présentation du concert Community Ensemble with Harry Brown de l'ensemble Natural Information Society mené par Joshua Abrams le vendredi 17 mai 2024 à 22h. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez lefimav.qc.ca.
L'Anglicane présente un concert exceptionnel. Le 27 avril, laissez-vous transporter par l'alchimie musicale de Chang Puissance 2 Duo. Réservez vos places dès maintenant à l'Anglicane de Lévis. Billets disponibles au espacedcl.ca.
Nous sommes en 1917. Première guerre mondiale, révolution russe. Moscou est le noyau de grands bouleversements sociaux. À huis clos, Nina, Treplev et Trigorine, un triangle amoureux figé dans le temps, espèrent un avenir meilleur. Dans une mise en scène mêlant le concert, le théâtre et l'art vidéo à grand déploiement, retrouvez les protagonistes de La Mouette de Tchekhov 15 ans plus tard. Nina ou de la fragilité des mouettes empaillées, au théâtre Périscope du 9 au 27 avril, une production de La Tralée et de Carte Blanche. Billets en vente maintenant.
Re-bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro, dans les studios de CKRL, avec Mathilde Harvey-Morin à la console. Et on est rejointe en onde par Stéphane Baillargeon. Bonsoir Stéphane.
Oui, allô.
Vous allez bien?
Oui, vous aussi?
Oui, je vous remercie. C'est très généreux de votre part d'avoir répondu à notre invitation à la dernière minute. J'apprécie vraiment beaucoup votre disponibilité.
C'est gentil de m'avoir invité.
Écoutez, les deux articles que vous avez publiés dans Le Devoir, c'est un diptyque, donc c'est deux articles qui se complètent l'un et l'autre. Le premier, du 18 avril, aborde la question de l'artiste national, donc met la table pour savoir qu'est-ce que Riopelle a comme place un peu dans notre histoire de l'art, ou en tout cas dans ce qu'on veut en faire, comment on l'écrit. Le deuxième aborde plus précisément le projet de l'espace Riopelle du MNBAC, qui est aussi le projet de la Fondation Riopelle. Et pour vous, les deux aspects abordés par ces artistes-là soulèvent des grandes questions là, de fond. Là. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de où vous arrivez, vous comme journaliste au Devoir qui couvre l'actualité, pour considérer ce qui se passe autour du MNBAC avec la Fondation Riopelle comme un sujet d'actualité.
En fait, le chemin qui nous a mené à choisir ce sujet est assez intéressant, c'est que depuis quelque temps, on discute de commémoration au Devoir et ma collègue Catherine Lalonde a fait plusieurs articles sur le sujet pour essayer de comprendre pour comment on commémore, comment on choisit les sujets ou les personnes à commémorer, quelles sont les règles nationales pour ça, parce qu'il y en a, et puis pour finalement se rendre compte que les familles sont très importantes aussi pour porter là, la mémoire des grandes personnes là, qui ont fait l'histoire et la nation et qu'on veut honorer de cette façon aux 25, 50 ou 100 ans, ou les événements aussi. Et puis, en travaillant ce sujet, bien, c'est bien rendu compte aussi qu'il y en avait un qui l'emportait là, haut la main, c'est Riopelle, parce que c'était son centenaire de naissance l'an passé et il a été immensément célébré. Il y a eu une cinquantaine d'activités qui ont été organisées par la Fondation et bon, tout le monde s'y est mis, des expositions, des spectacles, hommages, même Riopelle symphonique, c'était l'orgie, si on veut, de commémoration. Et certainement qu'il mérite qu'on lui lève le chapeau de cette façon-là, mais c'était à contrario très intéressant de se rendre compte que d'autres grandes figures avaient été complètement négligées. Alors, c'était le centenaire de Ludmilla Shiryaev, fondatrice des Grands Ballets. Personne n'en a parlé, même pas la compagnie. C'était récemment le centième de Frédéric Bach. Nous, on a fait quelque chose au devoir. Cette journée-là, Radio-Canada a sorti quelques archives, mais c'est un immense créateur, deux Oscars. Il y a eu déjà des expositions au Japon. Donc, tout ça était étonnant. Et donc, finalement, j'ai fini par proposer de nous interroger là, sur la place de Riopel pour se demander pourquoi il était tellement célébré. Et ça tombait bien parce que quand on a publié les articles, on s'est ajusté. Venise commençait, la Biennale de Venise, donc l'immense exposition d'art contemporain qui a une centaine d'années puis qui a l'avantage d'être symbolique, d'être organisé autour de pavillons nationaux. Et donc, oui. Les nations choisissent des artistes qui veulent, comme ça, mettre à l'avant-plan pour dire quelque chose d'eux-mêmes. C'est symboliquement très intéressant. Alors, une nation se projette de cette façon.
C'est un peu un modèle olympien, en fait. On envoie la crème de la crème de chez nous, des gens qui sont nos héros, en fait.
C'est ça, des champions. Et ça dit quelque chose de l'air du temps. Riopelle, il a été en 62. Molinari, il a été en 68. Puis... En ce moment, on voit que les États-Unis, cette année, envoient... Jeffrey Gibson, qui est un artiste d'origine Cherokee et qui fait des œuvres très engagées pour la communauté LGBTQ. Donc, on voit le mouvement EDI, là, égalité, diversité, inclusion, minorité, qui, on dit Jedi aussi parfois, là, en rajoutant justice, qui se pointe là très fortement. Le Canada a envoyé Kapwani Kiwanga, une Canadienne d'origine tanzanienne qui vit à Paris maintenant. Elle aussi réfléchit beaucoup aux questions, moins des minorités dans son cas, que aux questions en rapport à la décolonisation des musées, un autre thème très, très fort et très porteur. Et Canada, qui est très multiculturel, évidemment, s'intéresse à ça. Puis il y a des institutions muséales très marquées par le colonialisme, et donc c'est intéressant d'envoyer un artiste qui s'intéresse à ça. Donc, c'était le contexte pour expliquer pourquoi on a décidé de faire un doublé là, autour de la question de savoir si Riopelle était en train de redevenir une sorte d'artiste officiel, alors que le vent a tourné là, oui. En visuel. Il y a beaucoup de changements. Là.
Oui, mais c'est les tendances que vous soulignez, en fait, autour de la Biennale de Venise, on les voit partout. Les grandes institutions ont beaucoup de rattrapage à faire, puis font œuvre utile en encourageant, puis en reconnaissant la qualité d'artistes issus de la diversité, mais le fait aussi... dans un sens de rattraper aussi, donc de se reprendre et puis d'agir en fait pour réparer l'invisibilisation qu'il y a eu pendant les derniers 100 ans et plus. Cette tendance-là ne semble pas s'ancrer au Québec.
Ben, elle s'ancre dans les institutions. Peut-être que Québec a d'ailleurs pris du retard par rapport à ces mouvements, peut-être avec sagesse aussi, parce qu'il ne faut pas aller trop vite, parce qu'on a vu ce que ça donne dans certaines institutions quand les forces s'affrontent de façon frontale. Là, parce que justement, Riopelle s'est retrouvé autour d'une confrontation très forte entre... la volonté de décoloniser les musées et de passer à autre chose, et la tradition de célébrer les hommes blancs, peintres, géniaux de la modernité, puis de toute l'histoire de l'art, en fait. Et donc, le Musée des Beaux-Arts du Canada a voulu, s'est fait proposer d'organiser une grande rétrospective à l'occasion du centenaire de naissance de Riopelle en 2023. Et comme le Musée des Beaux-Arts du Canada était en plein mouvement de décolonisation, mais là, il y a eu un grand clash à l'intérieur de l'institution. On n'a pas tout su, mais on comprend que la direction qui était très favorable au mouvement d'égalité, diversité et d'inclusion a voulu se débarrasser de cette exposition promise. Mais finalement, les grands collectionneurs et d'autres instances ont fait des pressions pour qu'elle soit maintenue. Elle a été maintenue et ça a fait même chuter finalement la direction par intérim au musée là, qui était très diversitaire. Et donc, ça, on voit que ces forces-là s'affrontent. Riopelle représente, disons, quelque chose de passé, de moderne, c'est vrai, mais d'un peu ringard maintenant avec la peinture. Il y a d'autres forces qui poussent pour faire passer à autre chose. On peut comprendre en disant, par exemple, écoutez, ramenez-nous pas encore une autre exposition sur les impressionnistes ou une autre exposition de peintres du 20e siècle. On en a déjà assez vu, ça c'est un point de vue. Puis que d'autres disent, ben non, au contraire, les musées sont là pour cristalliser quelque chose de l'histoire de l'art de notre pays et de l'histoire de l'art mondial, et il faut continuer dans cette voie. Et donc, ce clash-là a été très important au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et ça a entaché un peu les célébrations, et ça a forcé à réfléchir là encore, à savoir quelle place on voulait lui faire vraiment. Et on comprend que mais la place, ça va être très importante. Écoutez, au Musée national des Beaux-Arts de Québec, on est en train de construire une aile complète, là, c'est-à-dire un pavillon complet qui va lui être dédié à Riopelle. On comprend, il y a déjà 450 œuvres là-bas, c'est la plus grande collection au monde de Riopelle. Vous me direz, c'est normal, si nous, on le collectionne pas, qui va le faire à ce niveau-là. Et les collectionneurs en rajoutent 60, c'est un don qui totaliserait 120 millions à peu près d'œuvres d'art. Le pavillon va coûter 80, et c'est beaucoup, beaucoup d'efforts là, fait autour d'une seule œuvre qui est gigantesque, on le comprend, et qui est importante, mais c'est très étonnant, parce qu'habituellement, les fondations, parce qu'il y a une fondation Riopelle depuis 89, fondée par des grands collectionneurs, habituellement, les fondations s'installent dans des lieux autonomes. La fondation Picasso à Paris est dans un ancien hôtel privé, puis elle n'est pas dans un musée pour aller après ça, en quelque sorte, phagocyter le musée, puis donner trop de son aura ou bien en prendre trop de l'institution.
Oui.
Là, on pensait qu'il y avait le danger un peu que le Musée national des Beaux-Arts devienne le Musée national de Riopelle.
Oui, tout à fait. Et c'est une chose que de rassembler la collection, c'est une chose que de conserver une mémoire d'une œuvre importante. Toutefois, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est la mission de notre Musée national des Beaux-Arts du Québec?
Ben, eux, ils font le pari que oui. Et d'ailleurs, leur pari repose, selon le directeur du musée, M. Murray, là, que j'ai interviewé, sur l'aura de Riopelle, justement. Alors, ce qu'on m'expliquait là-bas, c'est que les visiteurs étrangers ne se rendent pas tellement, les touristes, là, entre autres, ne se rendent pas. Et on comprend maintenant l'importance du musée comme centre d'attraction touristique dans une ville. Donc, les visiteurs étrangers ne se rendent pas tellement au Musée national des Beaux-Arts. Et donc, on souhaite, avec le pavillon Riopelle, puisque c'est un artiste de réputation internationale, on souhaite les attirer. Donc, on souhaite créer une force d'attraction autour de lui pour qu'après ça, les visiteurs restent et voient autre chose. C'est un peu bizarre parce que, en fait, la réputation de Riopelle, il faut le dire comme ça, et c'est pas être insultant que de le faire, là, je crois que c'est assez objectif. Elle a décliné à la longue. C'est-à-dire, c'est un artiste qui a commencé sa carrière dans les années 40 ici. Il est vite allé à Paris et sa réputation a gonflé instantanément. Ses œuvres des années 50 sont surpuissantes. Il s'est installé comme un grand créateur moderne et les musées du monde entier l'ont reconnu. Il est maintenant dans une soixantaine d'institutions muséales à travers le monde. Sauf qu'à la longue, sa réputation a dégonflé en quelque sorte. Sa réputation a été nationalisée, redevenue plus canadienne qu'internationale. Et même certains disent que sa réputation a été provincialisée. Alors là, il y a une tentative de la part des collectionneurs de le repositionner comme étant un artiste majeur. Le musée pense y arriver. C'est vrai qu'il y a une grande aura. Peut-être que ça va refonctionner, peut-être qu'il va regonfler. Puis il faut être très humble devant tout ça. Ni vous ni moi pouvons prédire ce qui va arriver à Riopelle ou à sa réputation dans 20, 30 ou 100 ans. Vous savez, Vermeer, le peintre de la jeune fille à la pelle, a été oublié pendant 200 ans, puis finalement il a rebondi, puis maintenant il est perçu comme un des grands créateurs des arts visuels de l'histoire de l'humanité.
Tout à fait. La posture critique, pour moi, que vous avez mise en place permet de questionner ce qui se passe présentement et aussi de soulever peut-être des enjeux qui sont comment on construit une identité, une mémoire. Est-ce qu'on le fait encore sur des figures d'hommes, de héros, ou est-ce qu'on pourrait pas, nous aussi, embarquer dans une tendance où on arrête de répéter ce qui a souvent été des erreurs, parce qu'en en créant, en mettant des hommes ou des femmes même sur des piédestals, ben éventuellement, on ne sait pas non plus qu'est-ce que l'histoire nous attend dans le futur. Sa contribution à son œuvre d'art fait partie de mouvements qui ont été importants et qui englobaient en fait plusieurs artistes et en tout cas, pour ma part, j'aimerais qu'on soit rendu au moment où on puisse célébrer sans être obligé d'identifier à une personne tout un pan de notre histoire de l'art.
Oui, mais il y a quelque chose de très complexe là-dedans aussi dans la mémoire, c'est-à-dire que le Québec veut se rêver des fois, parfois plus moderne qu'il l'a été. Là. Donc, il représente une modernité, une avant-garde, un avant-courrier de la Révolution tranquille. Il y a toujours ça avec les automatistes, les Borduas. Et vous savez, Fernand Dumont le disait, les Québécois ont parfois honte de ce qu'ils pensent avoir été. Là. Et on a noirci peut-être trop notre histoire nationale autrefois. Puis, quelques héros comme lui là, servent à rappeler qu'on était dans le courant mondial, qu'on était bon comme tout le monde. Puis là, maintenant, peut-être moins besoin de ça avec le, je sais pas, le caricature, mais Céline Dion, le Cirque du Soleil, là, ou Denis Villeneuve. Là. Et, mais lui, c'est un avant-courrier de tout ça. Là. C'était une star mondiale avant ces grands héros là, d'aujourd'hui et ces grands artistes d'aujourd'hui. Et donc, il y a peut-être de ça aussi, mais je sais pas si ça correspond tellement au nouvel air du temps, là, si les plus jeunes se reconnaissent tellement là-dedans. Je sais pas si ça va fonctionner, mais il y a aussi du gros argent derrière ça, là, faut pas l'oublier. Des collectionneurs ont accumulé des Riopel à l'appel là, pendant des décennies, ils veulent maintenant les refiler avec gentillesse là, à la collectivité, moyennant, bon, c'est sûr, des reçus d'impôts, mais bon.
Et quelle est la place de ces collectionneurs là autour de la table des décisions pour les investissements qui sont faits par notre musée national et qui est un musée public?
Il y a eu des pressions fortes à Ottawa pour que l'expo se fasse. Il y a eu des pressions fortes à Québec, ou en tout cas des offres reçues à Québec pour que le pavillon se fasse. D'ailleurs, il devait se faire à Montréal, mais Montréal l'a refusé à la longue, au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et il faut voir aussi que le Canada a pris des décisions qui favorisent les collectionneurs à la longue. C'est-à-dire que nos collections ne sont pas enrichies avec des fonds de dotation provenant de subventions du ministère de la Culture ou du ministère du Patrimoine, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. On ne donne pas au Musée national des Beaux-Arts du Québec 10, 15, 20 millions par année pour qu'ils puissent acheter les œuvres que les conservateurs payés pour être des experts détachés là, achètent selon leur bonne connaissance.
Alors, on laisse proximité-là avec les collègues.
On accumuler les œuvres, puis après ça, ils les donnent au musée. Donc, on privatise en quelque sorte la constitution des collections nationales. Et ça a des conséquences jusqu'à la constitution d'un pavillon pour rendre hommage aux collections accumulées par les collectionneurs privés, qui auraient peut-être été constitués, puis d'ailleurs, elle l'a été en partie, là, 450 œuvres ont été accumulées autrefois. Là. Mais c'est des œuvres données quand même, faut pas oublier ça. C'est très rare ici qu'un musée ait une dotation forte et puisse acheter comme il veut.
Ouais, c'est très intéressant. Monsieur Baillargeon, je vous remercie vraiment d'avoir porté cet éclairage-là. On continue de suivre et de se questionner, surtout ici à Québec, en fait, de toutes les bon, on commence l'aventure de la construction de ce pavillon-là. Mm-hmm. J'imagine qu'il y aura plusieurs moments où on pourra poursuivre la réflexion avec vous, avec d'autres acteurs.
Ben oui, rappelez-moi, c'était très sympathique.
Je vous remercie.
Bonne soirée à vous.
Au revoir.
Bye.
On continue avec une courte pause musicale avant de présenter l'agenda de la semaine.
Je suis ready to drop the five pounds, just stand up, parle que d'ici, je préfère l'eau salée, l'eau lac, un verre d'eau plate, c'est tout. Plage, bateau, plage, that's my jazz. C'est quoi ton petit nom déjà? C'est quoi ton petit nom déjà? C'est quoi ton petit nom déjà? Hey, 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 c'est Bermuda.
je m'adaptais comme une perle à la vie en mouvant. J'allais perdre mes mots, mais ma mère les a rattrapés avant que je ne parle trop de l'autre langue. Il m'a envoyé dans une école française bien distinguée de l'irlandaise. Tu vas parler 10 langues, mais surtout bien les diviser.
Assure-toi, ma fille, de bien prononcer ton nom.
C'est quoi ton petit nom déjà? C'est quoi ton petit nom déjà? C'est quoi ton petit nom déjà?
Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro avec Mathilde Harvey-Morin à la console. C'est maintenant l'heure de l'agenda de la semaine. On a quelques événements très intéressants qui se passent à Québec. On commence demain, dès midi, en fait c'est même à 11h30, à la salle multi de la Fabrique de l'Université Laval. Donc c'est un local qui est intitulé 4351 salle multi. Les étudiants connaissent en fait. C'est au deuxième étage ou au premier étage? Troisième étage. C'est l'équipe de la revue Interactuelle qui a le plaisir de nous inviter à une conférence dans le cadre du lancement de son numéro 143 consacré aux arts altercapacités. Le responsable du numéro, Mouloud Boukala, est un anthropologue et professeur de l'École des médias à l'Université du Québec à Montréal. Il va être présent et il va faire une première partie de la conférence. Caroline Moxion, artiste et auteur d'un article extrêmement pertinent dont on a parlé ici à l'émission dans le numéro Inter Art Capacité. Caroline, c'est une artiste du photographique. Son travail est magnifique. Et elle est là, en fait, aussi en tant que candidate au doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM. Et enfin, il y a Arbie Schwick, doctorant en sciences de l'administration de l'Université Laval, qui est aussi musicien et qui siège sur le CA du lieu. Donc, tous ensemble, ils vont parler à l'opposé des approches centrées sur les situations de handicap créées par des milieux ou des institutions capacitistes ou auditistes. Le numéro et la conférence privilégient des situations de création où des personnes autrement capacitées ou altercapacitées interrogent à nouveau les rapports de l'art au corps, aux espaces, aux temporalités, aux mobilités et aux sensorialités. Toujours demain, mercredi 24 avril, cette fois de 17h à 21h, c'est la nocturne de la Biennale de Québec. Donc, Manif d'art nous ouvre les portes de l'exposition centrale en soirée pour une nocturne, nous offrant ainsi une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les œuvres qui ont marqué cette édition sous la lumière de la pleine lune avant de plonger dans les abysses du sommeil. Donc, la pleine lune demain sera rose, elle célébrera le renouveau et annoncera non seulement l'arrivée d'une nouvelle saison, mais aussi la fin de l'hiver et la fin de la Biennale. Au programme, il y a une visite guidée, nocturne, art public et les expos intérieurs, le lancement du catalogue, des impressions t-shirts avec engrammes, la création mobile, une création de mobile cinétique colorée avec Gabriel Borgia et à 20h, une performance de François Morelli dans l'espace 400. Il y a des billets solidaires, à faible coût, qui sont en vente en ligne, je pense que c'est 10$, qui vous permettent d'aller voir l'expo centrale si jamais les 25$ qui étaient demandés d'habitude avaient créer un empêchement pour vous. On parle aussi ce jeudi dès 17h de la Galerie des arts visuels qui présente la nouvelle exposition de James Partaic nommée World Building. World Building regroupe deux interventions in situ se conjuguant afin de créer un environnement immersif. Tout d'abord, voix, installation sonore composée de moteurs de drones, puis Astérisme, une installation interactive composée de systèmes d'ailes et d'interfaces spatialisées. James est un artiste interdisciplinaire au sein de sa pratique les arts technologiques, les arts visuels, la musique, l'architecture. Ses œuvres ont été présentées dans des festivals, des galeries et des musées internationaux. Finalement, je voulais parler aussi de ce qui se passe au lieu ce week-end, vendredi le 26 avril et samedi le 27 avril. Il s'agit du vernissage et d'une performance vendredi soir 18h au lieu de « Ici égale hier » de Alice de Vichère et de Eva-Maria Schaller. « Ici égale hier » est une collection de vidéo-performances, des solos qui ont été réalisés pendant le confinement, des duos lors de trois résidences. Alice de Vichère et Eva-Maria Schaller performent régulièrement ensemble depuis 2010. Leurs duos ont été présentés en Allemagne, en Belgique, en Irlande et en France. Ici égale hier est leur premier projet de vidéo-performance en commun. C'est ainsi que se termine cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique produite et diffusée par Mathilde Harvey-Morin et moi, Christelle Tremblay, sur les ondes de CKRL 89.1. Pour la première fois cette saison, tous nos épisodes seront disponibles en balado-diffusion sur une nouvelle page web, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, intitulée « L'aérospatiale, magazine sur les arts visuels à Québec ». L'hyperlien pour vous connecter à ce nouveau fil où tous nos épisodes sont linkés sera diffusé sur nos médias sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre. Ça sera disponible dans les prochains jours. Un grand merci à nos invités, à notre invité Stéphane Béargent, ainsi qu'à notre chroniqueur Aldéric Léhi. Merci à notre mélomane Simon Roy. On se laisse sur une dernière piste de Bermuda et on se retrouve la semaine prochaine.
J'avais pas bu la veille. Les créneaux comme nos chapeaux veulent s'affaisser. J'ai fait le bon assez longtemps pour attendre le cocher. Les éléments s'alimentent, elle et moi comme un ricochet. Ce qu'on vit est salivant à l'image du trésor qu'on a repêché.
Cherche le pécule, un peu déçu, jeune en cave avec peu de vécu. Cherche une sortie, mais les murs s'effritent comme les souvenirs. J'essaie de reproduire ce que j'ai vu loin des sentinelles. Faut lâcher l'émotion et tasser les codes. Nouvel horizon, j'ai retracé les codes. Dans la maison de trois pattes et des potes, on profite de ce qu'on a de ce qui.
Ici Louis Gagné, propriétaire de Alimentex, une boutique spécialisée dans les produits naturels et les aliments biologiques. Je suis honoré d'être le porte-parole l'affaire du Radioton 2024 de CKRL. Cet événement revêt une importance capitale pour notre communauté. Je vous invite chaleureusement à manifester votre générosité envers cette station qui est à la fois un pilier culturel et communautaire essentiel de Québec. Je compte sur votre engagement et votre générosité. Merci.
Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz et de la bossa nova avec Eliane Elias et Mark Johnson.
When I look in your eyes, I see the two of us.
Mariant ses racines brésiliennes, sa voix et son jeu de piano dans un style unique, la talentueuse artiste vient partager son répertoire en compagnie du respecté contrebassiste. Ne ratez pas cette performance en duo attendue pour les deux artistes récipiendaires de prix Grammy. Le 4 mai, soyez aux premières loges pour le jazz brésilien d'Eliane Elias et de Mark Johnson au Palais Montcalm.
Ici Pierre Dolbecq qui vous invite à la deuxième édition du Diapason Fest qui aura lieu le 9 mai prochain au Quartier de Lune. Un spectacle bénéfice dont les profits seront remis à CKRL et à la Fondation Emplisson, avec des prestations des artistes émergents suivants. Juillet, Uriel, Hidden Bliss et Pretty Smile. Joignez-vous à nous pour encourager notre scène locale émergente. Les billets pour le Diapason Fest sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 25$.
Deux décennies de carrière auront permis à Kate Kuna d'assembler une œuvre musicale où l'insolence nourrit la beauté. Le dernier album double, Métastase, est acclamé par la critique. Il est sans équivoque l'un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus agiles de sa génération. voyez Kate Kuna sur scène le 10 mai prochain à l'Impériale Belle de Québec. KateKuna.com pour toutes les dates de spectacle. Du 13 au 16 juin, le Festival de la chanson de Tadoussac, présenté par Québecor en collaboration avec Hydro-Québec, fête ses 40 ans. De Élie Sapie à Philippe Braque, en passant par Marjo ou Safia Nolin, tu trouveras ton bonheur dans la programmation. Viens profiter du festival et célébrer avec nous 40 ans de fête avec des surprises et des concerts en pleine nature Loto-Québec. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi. Billets et passeports sur chantadoussac.com.
Cette semaine à la vie en BD, Kiri est mon vœu le plus sincère, Alex Lévesque et dessine Bandé.